Cité Vauban, 5 portes essentielles.
L'œuvre de Vauban est monumentale. Il a conçu et suivi la réalisation de plus de 150 places fortes, ainsi que de vastes ouvrages civils en France. 12 sites, dont Briançon, ont bénéficié de leur inscription de l'œuvre remarquable de Vauban sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ainsi, les portes de Pignerol, Méhane, Dauphine ou encore Porte d'Embrun et la Durance, ces entrées de ville, à l'époque, faisaient l'objet d'un soin particulier dans la défense des places fortes. Il fallait pouvoir aller et venir en temps de paix, tout en contrôlant les accès et pouvoir les fermer complètement en cas d'attaque ennemie. Sur les principes de Vauban et afin de montrer la grandeur du royaume, elles offrent à la vue de l'ennemi un majestueux décor à bossage de style classique. Des visites intitulées « Fortifs insolites Briançon Underground » ont lieu durant les journées du patrimoine, les 15 et 16 septembre. Les inscriptions sont obligatoires et, coiffées d'un casque de chantier, vous pourrez découvrir les entrailles de ces fortifications. Laura Giraud a suivi la guide conférencière du service du patrimoine de la ville de Briançon, Françoise Dezer.
Ici, nous sommes à la porte de Pignerol, qui est l'entrée haute de la vieille ville. Alors, il faut savoir que les portes sont des trous dans la fortification.
Il faut donc pouvoir
à la fois passer en temps de paix pour que les habitants puissent aller et venir dans la ville, mais il faut qu'en cas d'attaque, on puisse complètement sécuriser ces portes. À l'origine, lorsque la ville était à l'époque du Moyen-Âge, on avait une enceinte qui était formée par les maisons. Et à cette époque-là, il y avait trois portes. Des portes sûrement avec des ponts-levis, des grosses portes en bois clouté pour pouvoir fermer la ville en cas d'attaque, protéger des brigands. Il y avait la porte en haut de la ville, il y avait une porte en milieu de la ville et il y avait une porte au bas de la ville, en pied de ville. La porte du milieu de la ville, aujourd'hui, existe encore, mais on va dire en trace, c'est ce qu'on appelle la porte Méhane, donc qui donnait à la rue Méhane, qui était la rue du milieu. Aujourd'hui, elle a été un petit peu reconstituée, mais bon, elle est loin de ce qu'elle devait être à l'origine. Ça veut dire que quand même, à l'époque, on pouvait rentrer de l'extérieur de la ville par la porte Méhane, chose qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Parce que lorsque les remparts de Vauban vont être réalisés, on va faire trois portes aussi. La porte de Pignerol, la porte d'Embrun, tout en bas, et la porte de la Durance, qui est la porte qui permet d'accéder à la zone du fort des Têtes. Alors au Moyen-Âge, il n'y avait pas de fort de l'autre côté, donc on n'avait pas de porte de ce côté, puis il y a des gros rochers, donc il n'y avait pas trop d'accès possible, donc il n'y avait pas de porte côté Durance. Et il y a aujourd'hui une quatrième porte, qu'on appelle la porte Dauphine, qui jouxte la porte de Pignerol, qui a été juste construite à côté, mais qui n'est pas une porte de l'époque, puisque même si elle est bien réalisée en pierre de taille, avec un décor classique, c'est une porte qui a été réalisée dans les années 1930 pour permettre aux voitures de rentrer plus facilement dans la ville. On va d'ailleurs aménager toute l'avenue Vauban en enlevant la terre, les traverses qui s'appuyaient contre les maisons pour ménager cet accès aux véhicules. Donc, lorsqu'on observe cette porte Dauphine, on voit qu'il y a une porte qui s'ouvre dans la face d'un bastion. Ça, généralement, on ne faisait pas ça à cette époque. On ouvrait toujours les portes au milieu des courtines pour que ensuite les deux bastions puissent protéger la porte. Et là, on voit que les voitures rentrent assez facilement, c'est le but. Mais aussi, on peut imaginer que des soldats ennemis placent un canon directement face à la porte. Ils tirent directement dans la porte et ce serait beaucoup trop facile pour l'ennemi de rentrer dans Briançon. Donc le schéma normal, c'est là où nous nous trouvons à la porte de Pignerol. On a un ouvrage qu'on appelle une demi-lune, ici, le gros ouvrage, qui permettait de placer une centaine de soldats en protection de la porte. Et pour accéder à cette demi-lune, on a une première partie pont-levis et pont dormant qui permettait d'éviter que les ennemis accèdent trop facilement à la porte. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les ponts dormants, c'est la partie qui ne bouge pas, sont aujourd'hui en pierre, mais à l'origine, ils étaient en bois. Et c'est dans les années 1770 qu'on va décider, dans un peu toutes les places fortes de France, de réaliser des ponts dormants en pierre, parce que on manque de bois et le bois, ça s'abîme relativement facilement. C'est un peu plus récent que les fortifications elles-mêmes. Les ponts-levis sont des ponts-levis à bascule arrière. D'ailleurs, on ne voit absolument rien du mécanisme lorsqu'on se trouve ici devant la porte, l'avant-porte de Pignerol. On ne voit pas de flèches, on ne voit pas de chaînes ni de contrepoids. parce que tout se passait dessous.
Fonctionne-t-il toujours ?
Alors non. Là, nous sommes entrés sur la demi-lune. On aperçoit les petits escaliers qu'on appelle des pas de souris qui permettaient aux soldats d'aller se positionner en avant à la banquette de tir. Et on aperçoit un petit bâtiment qui est bien connu du Briançonnais puisque c'est là où le Père Noël vient en période de fête. Mais en réalité, c'était ce qu'on appelait un corps de garde, c'est-à-dire un bâtiment destiné à abriter les 12 gardes qui défendaient la porte. Et on a deux pièces dans ces corps de garde. À gauche, une petite porte avec une fenêtre. Et là, c'était la salle pour les 12 gardes. Il faut imaginer des bas-flancs avec des tables, une cheminée pour se chauffer. Et à droite, on a une deuxième porte, un espace plus petit qui était destiné à l'officier. Il a aussi une cheminée hein, pour pouvoir se chauffer. Les auvents, il y a un petit auvent de bois aussi pour que les soldats soient en permanence à l'abri et puissent garder la porte. En cas de menace, il y avait tout un règlement concernant l'ouverture, les horaires et la fermeture des portes. Ensuite, si on se retourne, on a le pont dormant et on remarque aussi que la route fait une courbe. Ça, c'est aussi une caractéristique de toutes les entrées comme ça, qui sont défendues, pour éviter que l'ennemi puisse placer les canons face à la porte. Il va d'abord falloir qu'il ait fait fuir tous les soldats qui sont en défense sur la demi-lune avant de pouvoir accéder. Même s'il arrive dans la première partie, il place un canon, il n'arrive pas à tirer sur la porte. Donc on a ici le pont dormant et le pont-levis. Et puis bien sûr, ici à la porte de Pignerol, comme c'est la porte qui est principale, on a un beau décor de style classique, composé de pierres de taille. On a deux pilastres sur les côtés et puis on a un entablement et un gros fronton triangulaire. C'était très important, le décor des places fortes. Ça permettait de montrer aussi à l'ennemi que la France était un pays puissant et puis penser qu'à l'intérieur, si on avait autant d'argent pour sculpter de la pierre, on avait aussi des soldats bien entraînés, beaucoup de vivres et que ça pouvait participer à la dissuasion. Dans le fossé, on aperçoit aussi l'arrivée de la gargouille qui arrive par un petit aqueduc qui aurait posé problème en cas d'attaque puisque c'est de l'eau qui vient de l'extérieur de la ville et les ennemis auraient vu ce défaut et pu couper l'eau ou empoisonner l'eau. C'est d'ailleurs pour cette raison que Vauban fera construire un puits sur la place d'armes. On aperçoit aussi au-dessus des grosses embrasures destinées à accueillir des pièces d'artillerie qui vont battre le fossé, empêchant l'ennemi aussi d'avancer. Ensuite, on aperçoit la herse, qui est en bois, avec des poutres, une section assez importante. Et donc cette herse pouvait bien sûr se fermer. Deux petits renfoncements qui accueillaient des corps de garde. C'est encore écrit dessus. Corps de garde de droite étant celui du service du patrimoine. Si on observe un petit peu la porte, on voit une voûte donc, qui est faite en pierre de taille. Donc des voûtes d'arêtes, c'est comme ça qu'on construisait le plus. Puis si on observe un peu mieux encore, on aperçoit les marques de tailleurs de pierre. Des petits N, des petites demi-lunes. Donc les tailleurs de pierre laissaient leurs marques ensuite pour pouvoir être payés. C'est un des endroits où il y en a le plus. Donc ici on est dans le bâtiment de la porte, le grand bâtiment qu'on appelle le vieux colombier. Et au centre de la salle, on a la statue de Vauban. Et derrière se cache la chambre de la herse, donc l'endroit où les soldats venaient manœuvrer la herse. Alors, du coup, elle est très protégée parce que cette chambre de herse, elle est vraiment à l'intérieur du bâtiment. Ça veut dire qu'en cas d'attaque, les ennemis devaient batailler pour pouvoir accéder à cette chambre de la herse et pouvoir ouvrir la herse. Alors, la herse qu'on a sous les yeux, elle date des années milieu 1965 à peu près. Et donc elle est moderne et on ne sait pas exactement si elle reproduit le modèle d'origine ou pas, en sachant qu'à cette époque, le modèle était un petit peu différent. Là, on a des pieux verticaux et on a des traverses horizontales. À l'origine, on avait un système qu'on appelait le système des orgues, avec seulement les pieux verticaux et qu'on pouvait remonter indépendamment. Ce qui fait que si un soldat de la place voulait passer, on montait seulement deux pieux, donc ne pas ouvrir toute la herse. C'est un système aussi qui est un peu plus solide. Cette herse, on peut la descendre aujourd'hui, puisqu'elle est équipée d'un gros contrepoids. Et donc il faut quand même deux hommes assez costauds pour faire descendre cette herse, pour des raisons de sécurité, pour pas qu'elle tue quelqu'un en descendant trop vite. Voilà, donc elle est manœuvrée en gros une ou deux fois par an. Pour le pont-levis, on a trouvé une petite porte qui permettait aux soldats d'accéder sous le pont-levis et de manœuvrer le pont. C'était un pont-levis à bascule arrière.